partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Chers auditeurs de Canal Académie, bonjour. Nous allons aujourd'hui évoquer un sujet qui nous est cher, surtout ici à l'Institut. Il s'agit bien sûr des dictionnaires. Lorsqu'on pense à la lexicographie de la langue française, on cite avec une complaisance presque autosatisfaite, à juste titre d'ailleurs, les 9 éditions du dictionnaire de l'Académie française, le Littré, les Larousse, les Robert, le trésor de la langue française, et puis des noms nous viennent aussi à l'esprit immédiatement, Bernard Quémada, Maurice Druon, Alain Rey, Hélène Carrère-Dancausse, etc. Et sans s'en rendre compte, avec la plus belle inconscience, on se montre particulièrement chauvin, franco-centré en quelque sorte. On oublie en effet, coupablement, un autre grand pays de la francophonie, où la lexicographie, c'est-à-dire l'art de rédiger des dictionnaires, est très vivante. Et c'est tout simplement et très solidement le Québec. Or, il se trouve que dans l'université où j'exerce, l'université de Cergy-Pontoise, en tant que professeur de linguistique, notamment de lexicologie et de lexicographie, j'ai aussi la chance d'y diriger le laboratoire CNRS qui est consacré à l'histoire des dictionnaires. Pourquoi cette autosatisfaction? Tout simplement parce que ça m'a permis d'avoir des échanges étroits avec le Québec. Et nous revenons justement du Québec avec cette fameuse journée québécoise des dictionnaires qui s'est installée dans le sillage de celle de Cergy. Et là, j'ai eu l'occasion, pendant ce voyage, d'aller à l'université de Sherbrooke rencontrer mes collègues. Et j'y suis allé pour examiner, pour étudier, pour prendre des leçons aussi sur ce grand dictionnaire qui est en train de s'élaborer à Sherbrooke. Et je reviens avec une invitée, Mireille El-Chakar, qui est lexicographe distinguée dans ce projet. Alors j'ai la chance, par ailleurs, qu'avec le professeur Louis Mercier, un grand professeur aussi du Québec, nous la suivions dans une thèse sur le vocabulaire politique dans la lexicographie. Et Mireille, avant de vous présenter, je crois qu'il faut aussi rappeler en gros de quoi il s'agit quand on évoque ce grand projet. Il est né en 2001. À l'initiative de Pierre Martel et d'Hélène Cajolet-Laganière, qui assure donc la direction linguistique de ce dictionnaire, avec Chantal Edith Masson, qui assume la direction informatique de cet ouvrage ambitieux. Et dans l'équipe, on repère aussi le grand professeur Louis Mercier, mais aussi évidemment Jean-Claude Boulanger, qui a été l'auteur du dictionnaire du Québec d'aujourd'hui. Alors Mireille, peut-être une première question, pourquoi un dictionnaire du français québécois?
Ben, c'est évident qu'il y a des grandes différences entre plusieurs variétés de français. Si on prend les variétés européennes et les variétés américaines, on repère déjà de grandes différences. Et encore plus de différences lorsqu'on compare la variété québécoise de français avec le français de France, qui est prioritairement décrit dans les dictionnaires usuels du français qui sont actuellement disponibles et qui sont utilisés au Québec. Ces différences sont bien sûr phonétiques, on le perçoit immédiatement, mais elles touchent aussi le lexique, donc l'objet de description des dictionnaires. Si on prend quelques exemples, c'est sûr qu'il y en a dans la langue générale. Si on relève des exemples dans la langue courante, par exemple, chez nous, le mot « présentement », oui, qui est peut-être vieilli ici, chez nous, c'est tout à fait courant. Les gens ne se rendent peut-être même pas compte que c'est un mot qui caractérise l'usage québécois. Mm-hmm. Sinon, d'autres exemples, chez nous, par exemple, votre citronnade, on la nomme la limonade. Ou la paire chiropracticien, chiropracteur aussi. Donc, il y a beaucoup de mots dans la langue générale. Des constructions également, chez nous, on dispute quelqu'un. Ou même des expressions qui prend Marie prend pays. Et toutes ces expressions...
Ah,
oui, et aussi des mots qui montrent un peu le lien différent que le Québec entretient avec l'anglicisme. Donc, chez nous, au lieu de dire ferry, on dira traversier. Mm-hmm. Au lieu de dire un puzzle, on dira un casse-tête. Et donc, tous ces mots de la langue générale, on voit tout de suite que ces différences lexicales...
Je pense à l'instant à la congestion aussi, pour les embouteillages.
Oui,
là
oui,
une congestion. Là, on est bouchon, on voit les panneaux congestion, oui. Ça ne manque pas de charme.
Et donc, tous ces mots-là, ce sont vraiment des mots qui appartiennent à une langue standard, c'est-à-dire que ce ne sont pas nécessairement des mots familiers. C'est vraiment ce qu'on appelle le standard de la langue québécoise. Si on prend donc à part la langue générale, il y a bien sûr des pans de vocabulaire qui sont plus susceptibles de contenir des mots caractéristiques du français québécois parce que tout simplement, ils servent à dénommer des réalités nord-américaines. Donc, tout simplement, si on prend le grand vocabulaire de la faune et de la flore, comporte beaucoup de différences, puisque, bien sûr, les plantes, les arbres, les oiseaux ne sont pas les mêmes.
Oui, je me souviens que Louis Mercier est un grand spécialiste de la chose et qu'il en est chargé, je crois, dans le...
Oui, au dictionnaire, c'est lui qui est responsable de la rédaction de la faune et de la flore. Donc, bien sûr, dans ces mots-là, on a récupéré beaucoup de mots des langues amérindiennes, donc le caribou, le touladi.
Ah, le touladi, qu'est-ce
que... C'est un poisson, poisson d'eau douce, oui. Et aussi le vocabulaire politique dont j'ai un peu rédigé le vocabulaire dans le dictionnaire Francus. Donc, bien sûr, le régime politique n'est pas le même en France et au Québec. Donc, la monarchie parlementaire, qui est le régime canadien, n'est pas le même que la République française. Et il y a plusieurs mots, donc, qui sont propres au régime politique canadien, comme sous-ministre, ou gouverneur général.
Là, je crois que c'est vous qui êtes chargé de cette
partie. Oui, voilà, j'en ai rédigé une grande partie pour me rendre compte que, justement, ce qui était présent dans les dictionnaires français usuels qu'on utilise, même si ce sont d'excellents dictionnaires, bien sûr, la description n'est pas axée prioritairement vers le public québécois. Et donc, il est évident qu'on ne peut pas demander à un dictionnaire d'une nomenclature d'environ 60 000 mots de convenir adéquatement et de la même manière à toutes les variétés de français.
60 000 mots, enfin, je rappellerai que c'est la taille du petit Robert.
Oui, exactement. Et donc, c'est pour cette raison que le public québécois ressent depuis un moment, depuis plusieurs décennies en fait, une espèce de frustration à la consultation des dictionnaires usuels qui sont disponibles actuellement, parce que, même si ce sont d'excellents ouvrages, le public cible n'est pas le public québécois francophone.
Très bien. Peut-être un mot juste avant une deuxième question, à propos donc de ce dictionnaire et de ce qu'il décrit, de la langue qu'il décrit. Vous évoquez Francus, peut-être nous dire un mot sur ce que signifie Francus.
Alors Francus, c'était un mot en fait qui signifie la description du français standard. C'est donc à dire que l'objet de la description se concentre plutôt vers la langue standard, en raison un peu du rapport particulier qu'entretiennent les Québécois avec leur langue, une espèce d'insécurité linguistique, de toujours se comparer à la France et de aussi avoir peur des anglicismes. Quand même, le Québec est un petit îlot francophone dans un continent anglophone. Et donc, il y a toujours eu une espèce de peur un peu de ne pas parler assez bien français ou de trop permettre aux anglicismes d'entrer dans la langue. Donc,
je vous coupe un petit peu. C'est effectivement le sentiment qu'on a quand on est au Québec. Les gens s'y expriment très bien. Tous mes collègues s'expriment merveilleusement. Mais on sent qu'ils sont très attentifs à la manière dont nous parlons, venant de l'Hexagone, avec un sentiment d'insécurité linguistique, ayant toujours l'impression que, bien sûr, la France parle mieux que le Québec, ce qui n'est pas vrai, bien entendu, ce qui est différent. Et je me souviens de quelqu'un qui, après une conférence que j'avais donnée au Québec, est venu me voir en me disant « Vous avez très bien parlé ». Et du coup, je me suis senti en insécurité linguistique, parce que je me suis dit « Mais il n'a peut-être pas écouté vraiment ce que j'ai dit, mais plutôt la manière dont je l'ai dit ». Et on est très rapidement dans l'insécurité linguistique.
Oui,
et deux secondes après, je faisais une faute de français.
Oui, et en fait, on l'est d'autant plus que tous les ouvrages de français qu'on consulte au Québec sont faits en France, et donc on ne s'y reconnaît pas, et donc on ne sait pas si ce qu'on dit est juste, puisqu'on ne répertorie pas. On se dit présentement, est-ce que c'est vieilli? Est-ce que j'ai raison d'utiliser ce mot ou pas? Mm-hmm. Et donc, ceci se retrouve, bien sûr, chez les élèves, par exemple, qui veulent avoir la confirmation que leur usage de la langue est correct, ou même chez les enseignants qui veulent corriger les copies des élèves et des étudiants.
Oui, donc dans la nomenclature et dans ce qu'on appelle de manière très pédante la macrostructure du côté des linguistes, enfin j'en fais partie aussi, il y a évidemment des changements importants. Vous avez évoqué 60 000 mots. Est-ce qu'on pourrait dire combien il y a de mots, par exemple, qui sont typiquement d'une macrostructure, d'une nomenclature québécoise?
C'est sûr que le dictionnaire du projet Francus est un dictionnaire général. Donc, il va y avoir, bien sûr, des usages propres au Québec. Je ne sais pas exactement la proportion. Mais comme c'est un dictionnaire général et non pas un dictionnaire différentiel, on ne fait pas que répertorier ce qui est propre au Québec, mais on utilise vraiment, on veut décrire l'ensemble de la langue qui est disponible au Québec. Donc, tout l'a dit va être important, présentement va être important, mais le mot table également va être important.
Oui, bien sûr.
Donc, ce sera de la nomenclature un peu comparable à celle du petit Robert, par exemple. Par contre, en raison de ce sentiment d'insécurité linguistique, on va se concentrer principalement sur la langue standard. Donc, on ne va pas axer la description sur la langue familière ou populaire. On va vraiment essayer de regarder ce qui est considéré comme un langage correct ou soutenu au Québec.
Bien sûr. C'est souvent, d'ailleurs, le défaut que nous avons en France. C'est lorsqu'on s'intéresse à la langue française telle qu'elle est parlée au Québec, on s'intéresse davantage à des mots qui seraient du patois ou des mots qui seraient des régionalismes qu'au français standard du Québec. Et du coup, bon, il y a un peu une confusion. C'est comme si, venant, vous, du Québec, et arrivant en France, vous ne vous intéressiez qu'au mot vassingue, par exemple, qu'on dit dans le Nord, ou pégouze pour les mains un peu collantes dans le Midi. Bon, ça ne serait pas vraiment du français standard.
Oui, exactement. C'est sûr que lorsqu'on va dans un pays étranger, c'est un peu rigolo d'avoir un peu un aperçu des mots de la langue familière. Mais pour le public québécois, la priorité, bien sûr, les gens connaissent la langue familière. Les Québécois savent comment s'exprimer dans la vie de tous les jours. Et ce qu'ils veulent, c'est vraiment avoir un ouvrage qui consolide la portion standard de sa langue, donc vraiment qui fasse autorité en matière de langue.
Alors, est-ce là une des originalités du français tel qu'il est décrit dans le Francus ou du Francus par rapport aux autres dictionnaires du français québécois, puisqu'il y a d'autres dictionnaires du français québécois?
Oui, en effet, il y a eu d'autres dictionnaires qui ont été faits, bon, principalement le dictionnaire du français plus et le dictionnaire québécois d'aujourd'hui. En fait, la première originalité, c'est que ces dictionnaires étaient tout d'abord des adaptations de dictionnaires de maison française, de la maison Robert et de Hachette.
Hachette, c'était Claude Poirier, je crois, avec le français plus.
Oui, qui est le responsable, le directeur du Trésor de la langue française au Québec.
Voilà, et l'autre, Robert, c'était Jean-Claude Boulanger.
Oui, qui est actuellement sur le comité de la politique éditoriale du dictionnaire Francus. Mmh. Et donc, ces dictionnaires avaient vraiment fait un travail louable d'adapter un dictionnaire déjà existant en français, c'est-à-dire en retranchant certains emplois non vraiment usités au Québec de la nomenclature, en ajoutant des emplois québécois. Par contre, ces dictionnaires n'ont pas vraiment eu le succès escompté. Entre autres, le DQA, le dictionnaire québécois d'aujourd'hui, pour les raisons que vous venez d'évoquer, c'est qu'on avait accordé une trop grande importance à la langue familière et à la langue populaire dans la nomenclature. Et les Québécois, qui ont donc un sentiment d'insécurité linguistique, ne souhaitaient pas vraiment mettre de l'avant ces emplois, mais souhaitaient plutôt qu'on accorde plus de place à ce qui était considéré comme un langage soutenu ou un langage correct. Mmh. Et le Francus, donc, essaie de répondre à ceci de plusieurs manières. D'abord, en donnant la priorité à la langue standard. Ensuite, en ne taisant pas complètement les emplois considérés comme non corrects ou les emplois critiqués à l'anglais, les emprunts critiqués à l'anglais. Donc, ce qu'on fait, par exemple, c'est lorsqu'il y a un emprunt critiqué à l'anglais qui est très fréquent, on va donner l'équivalent en langue française correcte.
Vous pouvez nous donner des exemples?
Oui, par exemple, qu'on dit très souvent chez nous dans la langue familière, on dit cédulé, qui vient de l'anglais schedule. Et on va donner, donc on va mettre l'entrée.
Cédulé?
Oui, cédulé qui vient de schedule.
Ah, C-E accent aigu, D-U-L-E accent aigu?
Oui.
Ah oui, moi j'en étais à cédulé.
Non. Bon. On a francisé donc la manière de l'écrire. Et donc on donne un renvoi, on dit que c'est un emprunt critiqué et on suggère des choses fixées à l'horaire, par exemple, ou fixées au programme, insérées à l'horaire. Par exemple, même pour challenge, on va l'écrire à la nomenclature en informant le lecteur que c'est un emprunt critiqué. Et en suggérant, par exemple, de le remplacer par défi dans certains contextes. Et une autre grande originalité du dictionnaire Francus, c'est que, bien sûr, il y a eu d'autres dictionnaires du français québécois, on vient de les évoquer, mais pour une fois, au lieu de se baser sur la nomenclature et la description d'un dictionnaire existant, on est vraiment parti de zéro, c'est-à-dire qu'on n'est pas parti d'un produit qui existait déjà, mais vraiment de banque de données textuelles québécoises.
C'est, pour ainsi dire, le premier véritable dictionnaire entièrement québécois.
Si on veut, oui. En fait,
en exagérant un petit peu, mais si.
Oui, c'est un peu ça.
Tous les autres sont partis d'un produit français.
Oui, bien sûr, ils ont déjà fait avancer beaucoup le débat. Il ne faut pas non plus diminuer leur exploit.
Claude Boulanger et Claude Poirier ont fait un travail remarquable.
Oui, et le Francus n'aurait pas pu produire son dictionnaire sans leur travail. Mais donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on se base sur la banque de données textuelle de Sherbrooke, qui est une grande banque de données qui contient environ 52 à 53 millions de mots.
Ah, c'est énorme.
C'est énorme et c'est tout informatisé. Et ce sont des textes puisés à la langue littéraire, mais également à la langue journalistique. Il y a également des manuels scolaires. On a demandé aux spécialistes de chaque discipline de nous donner la liste des manuels les plus utilisés dans leur domaine. Il y a des textes didactiques, des textes scientifiques. Et donc, c'est à partir de cette grande banque de données qu'on peut, d'une part, établir la nomenclature du dictionnaire.
Peut-être juste préciser que Sherbrooke, que nos auditeurs ne connaissent peut-être pas, est une des trois grandes villes universitaires du Québec. Hein. Il y a Montréal, il y a Québec même, la ville de Québec, et puis il y a Sherbrooke. Et que Sherbrooke, bon, est une grande ville, mais c'est son université qui a un rayonnement vraiment très intense.
Oui, c'est ça. C'est une grande ville dont l'économie est surtout basée sur l'université, en fait. Et donc, à Sherbrooke, c'est donc là que la banque de données textuelles a été montée et c'est vraiment un outil qui nous permet d'établir la nomenclature, puis ensuite de baser la description. On peut voir si un mot est utilisé de la même manière en France qu'au Québec. On peut ensuite voir quels sont les co-occurrents, donc quels exemples mettre dans le dictionnaire, avec quel verbe tel adjectif est utilisé, par exemple.
Alors, cette description fondée donc sur l'informatisation et sur les corpus informatisés se fait en équipe. Combien êtes-vous dans cette équipe?
Alors, il y a peut-être une trentaine de rédacteurs, donc ils font vraiment les articles de dictionnaire. Mais comme le dictionnaire prévoit plusieurs rubriques, il y a des collaborateurs à plusieurs niveaux. Donc, pour l'étymologie, et dans ces cas-ci, on fait appel aussi, on fait des collaborations, par exemple, avec l'équipe du Trésor de la langue française au Québec, qui a fait beaucoup de recherches historiques sur les québécismes.
Voilà, alors le Trésor de la langue française au Québec, c'est très important, c'est sous la houlette de Claude Poirier, qui lui-même a fait son doctorat et était, disons, sous l'influence forte et décisive pour beaucoup de lexicographes, j'en fais partie, de Bernard Quémadin.
Oui, exactement.
Directeur du Trésor de la langue française, à la suite de Paul Imms en France.
Et donc... grâce aux travaux historiques du Trésor de la langue française au Québec, ça nous permet d'enrichir un peu nos rubriques étymologiques parce que, bien sûr, comme ce vocabulaire québécois n'a pas été décrit ailleurs, ça nous permet d'enrichir un peu la description qu'on peut en faire. Il y a aussi une équipe à l'Université de Montréal qui s'occupe de la prononciation.
Oui, alors tout à l'heure, je vous entendais dire « challenge », parce que je sais que chaque fois que je vais au Québec, on me reprend parfois, alors que j'ai l'impression de prononcer un mot très français, avec ce voyage que font les mots, qui fait que le mot est d'abord français, passe en Angleterre et revient ensuite en France avec parfois un accent anglais. Bon. Et donc, je pense à budget, la bougette quasiment d'origine gauloise qui passe ensuite en Angleterre et nous revient. Et vous chassez terriblement ces anglicismes.
Oui, peut-être un peu par excès, mais dès qu'on sent la présence de l'anglais, on réagit très fortement.
Et alors, challenge, parce que moi, je dirais un challenge.
Nous, on dit challenge,
carrément. Oui, parce qu'il y a l'influence anglaise. Et donc, dans votre dictionnaire, la prononciation, comment est-elle?
On ne donne pas la prononciation pour les emprunts critiqués, en fait, parce qu'on ne veut pas... on veut vraiment que les gens aillent voir sous... l'article qui est vraiment jugé correct. Donc, on va envoyer à ce défi ou au mot qu'on devrait utiliser selon les différents contextes.
On n'encourage pas la mauvaise prononciation.
Voilà.
Alors, peut-être un problème de parution de ce Francus. On vient d'évoquer les rubriques. Quand va-t-il paraître? Où en sommes-nous? Et puis peut-être son originalité par rapport au dictionnaire français aussi. Là, on vient de parler de son originalité par rapport au dictionnaire québécois-français. Bon, mais par rapport au petit Robert, au petit Larousse, il y a sûrement aussi une originalité, parce que c'est un dictionnaire qui va compter.
En fait, on espère bien. C'est sûr que par rapport au portrait de la lexicographie québécoise, ça fait une grande différence, puisque ce sera le premier dictionnaire général de langue française vraiment complètement original au Québec. Mais il ne faut pas s'oublier non plus que ce sera le premier dictionnaire général de langue française fait à l'extérieur de Paris. Donc, ce qui est quand même assez surprenant, puisque en Amérique anglaise, au Canada anglais, aux États-Unis et dans d'autres pays d'anciennes colonies, en Amérique du Sud, au Mexique, il y a déjà eu des dictionnaires de variétés autres que la langue mère. Et donc, en français, ce sera la première fois.
C'est d'ailleurs très intéressant qu'il soit fait à Sherbrooke, qui est presque une ville isolée, enfin géographiquement, qui est quand même à 200 km à peu près de Montréal.
Oui.
200 km de Québec aussi, à peu près.
Oui.
Bon, et qui est vraiment une unité quand on y va, on sent qu'on arrive à Sherbrooke et son université.
Oui.
Ouais, donc c'est un lieu de travail où on intensément réfléchit aux mots.
Oui, on a aussi des collaborations bien sûr avec les autres universités, mais c'est ce qui nous permet donc de faire ce dictionnaire. Et parmi les innovations, donc c'est sûr qu'on va essayer de se positionner par rapport aux autres dictionnaires du français, quels qu'ils soient. Et disons qu'une des grandes différences, peut-être que ce sont les innovations technologiques. Nous avons parlé de la banque de données textuelle de Sherbrooke tout à l'heure, qui est quand même une immense banque de données qui permet de fixer la nomenclature et d'assurer la description. Mais comme ce dictionnaire a été commencé où la technologie ou l'informatique avait déjà une place énorme, dès le départ, le projet a été fait sur support informatique. Donc, ceci décuple bien sûr toutes les possibilités de travail par la suite. Donc, le balisage qu'on fait informatiquement est très fin, ce qui nous permet d'avoir accès à toutes les informations vraiment rapidement et ce qui nous permet également de décupler les possibilités d'une version électronique.
Alors, une version électronique qui sera facile à consulter, j'imagine, sur un site, sur les écrans français, évidemment, aussi bien que québécois, ce sera quelque chose d'international.
Oui, parce qu'en fait, la première version, la version préliminaire de l'ouvrage, paraîtra en version en ligne, gratuite et consultable pour tous.
Oui, ça, c'est une grande nouveauté. On voit bien qu'actuellement, les dictionnaires français sont dans non pas une grande difficulté, parce que les lexicographes sont là, la recherche est là, la réflexion est forte, mais il y a un problème comme il y en a eu naguère au moment où on est passé du volumen, le rouleau, au codex, c'est-à-dire le cahier qu'on ouvre en quelque sorte, et quand on est passé en gros du manuscrit à l'imprimerie. Et aujourd'hui, on passe du papier à l'écran, les deux étant utiles, mais on ne sait pas encore trop comment diriger tout cela financièrement. Hein, c'est la grande difficulté des dictionnaires d'aujourd'hui. Doit-on le donner gratuitement sur Internet ? Alors on voit beaucoup de tentatives de ce côté-là, mais en même temps, bon, il faut bien nourrir les lexicographes. Donc vous, vous avez franchi un pas.
En fait, ce sera pour la version préliminaire. Ensuite, c'est sûr que qui paraîtra au cours de 2008. Ensuite, c'est sûr qu'en 2009, il y aura une version définitive que les gens pourront se procurer. Mais il ne faut pas oublier non plus que le dictionnaire en cours d'élaboration, le Francus, est un projet institutionnel. Donc, ce n'est pas avec une maison d'édition, c'est vraiment un projet universitaire.
Oui, c'est d'ailleurs une des raisons fortes de votre présence ici, puisque quand on évoque les institutions, bon, à Canal Académie, on pense forcément au dictionnaire de l'Académie française, on pense forcément au trésor de la langue française, issu du CNRS. Donc vous, vous êtes une sorte aussi de troisième, si je puis dire, ou de premier peut-être, on verra plus tard, mais en tout cas, vous faites partie de ce trio des dictionnaires institutionnels de la langue française.
Si on veut, oui, et c'est intéressant que vous évoquiez le Trésor de la langue française. Je pourrais peut-être aussi ajouter que nous avons une collaboration entre le Francus et le Trésor de la langue française qui fait en sorte que, pour certains mots vraiment très courants et vraiment très communs, où tous les dictionnaires, finalement, donnent à peu près la même définition les uns les autres, on peut tout simplement reprendre la définition du Trésor de la langue française ou des parties de la définition en citant le Trésor de la langue française, bien sûr. Si je prends l'exemple de triangle, comment faire pour définir triangle d'une manière différente que le petit Robert, que le petit Larousse? Je veux dire, un triangle, c'est un triangle. Donc, on a décidé de... en fait, le Trésor de la langue française nous a permis de donc pouvoir reprendre des parties de définition pour certains mots très courants en citant, entre parenthèses, Trésor de la langue française, et ce qui nous permet, pour la première édition, de vraiment nous concentrer sur la portion plus purement québécoise, c'est-à-dire dans la nomenclature, mais également dans la description, les exemples, etc., et sur les autres parties d'innovation du dictionnaire.
C'est vrai que c'est empreint d'une grande sagesse, parce que c'était une des difficultés que je rencontrais parfois aussi. Quand vous lancez un nouveau dictionnaire, naguère, le problème de plagiat ne se posait pas, puisqu'au contraire, je dirais que et l'Académie était copiée par tous les dictionnaires du 19e siècle dans ses bonnes définitions. Richelet, Furtière, mais surtout Furtière et le dictionnaire de Trévoux, bon, on a vraiment du copier-coller, comme on dirait aujourd'hui assez souvent, mais on ajoute. Et ce qui était très bien fait, on n'hésitait pas à le reprendre. Aujourd'hui, au 20e siècle, 21e, avec le problème des droits d'auteur, avec une concurrence qui est aussi très pertinente entre les maisons lexicographiques, on ne peut pas reprendre la même définition. Et parfois, il y en a une qui est excellente. Et le suivant est obligé de... Sans regarder, ferait la même, mais en regardant ce que fait le concurrent, s'aperçoit qu'il a rédigé la même définition, il est obligé de la faire moins bonne ou différente. Et ça, c'était un vrai problème. Donc, de s'associer à un dictionnaire qui a fait de très bonnes définitions et de l'avouer, avec son accord, bon, ça évite évidemment ce plagiat contre lequel on lutte et qui pousserait à faire de mauvaises définitions parfois. Bon. Oui. Donc ça, je trouve que c'est une bonne démarche. Alors peut-être, pour conclure, bon, moi je pense à Richelet qui disait qu'un dictionnaire est l'ouvrage de tout le monde. Je pense qu'il faudrait dire aussi qu'un dictionnaire, c'est l'ouvrage de tout un pays et que là, c'est l'ouvrage de tout le Québec et qu'en ce sens, bon, c'est vraiment une très grande première. Et puis, alors, bien entendu, puisque vous nous avez mis l'eau à la bouche, bah, nous donner bien précisément toutes ces références électroniques, informatiques. Puis je formule un vœu qui me vient à l'instant, puisque je sais que le Trésor de la langue française, en tant que dictionnaire institutionnel, donc du CNRS, l'Académie française, en tant qu'aussi dictionnaire institutionnel, avec 9 éditions d'expérience et un formidable dictionnaire en route, en cours, sont associés sur des sites, avec d'ailleurs l'abbé Ferraud aussi, le dictionnaire de Ferraud. Bah, peut-être faut-il songer un jour à ce que votre dictionnaire soit aussi associé à cela. Mais là, j'anticipe, et vraiment, je lance ça, non pas dans le vide, mais dans les espoirs possibles. Et donc, nous donner, pour nos auditeurs, en vous remerciant encore de cette... précision, de ce côté chaleureux qu'apporte toujours le Québec quand il s'agit de la langue française, ce côté vigoureux hein, et combatif aussi, bah, nous donner les références pour nos auditeurs du site, et là où encore continuer de nous informer.
Les auditeurs peuvent aller sur le site qui est ouvert au public du Francus à l'adresse www.francus.qus.
Ah oui, vous voyez, francus.
U.Sherbrooke pour Université de Sherbrooke.
Alors ça se touche. U.S.H.E.R.B.R.2.O.K.E.
.ca. Et donc sur ce site, vous pourrez avoir le détail de la politique éditoriale et même un exemplier avec quelques exemples du traitement que le Francus va proposer.
Eh bien, merci Mireille, on se précipite tous sur le site.
Merci à vous.